S'agissant de l'Union européenne comme territoire singulier, qui est le sujet de maintenant, il s'est passé quelque chose de tout à fait inattendu, c'est-à-dire qu'on a arrêté d'enfoncer des clous dans le cercueil de l'Union européenne, ce que je faisais avec d'autres. Nous étions de moins en moins nombreux à nous occuper de l'Union européenne, et de tellement tout le monde autour de nous était persuadé que ce truc était en train de mourir. On avait de moins en moins d'étudiants. En tant que géographe, j'avais de plus en plus l'impression de devenir un historien du temps présent et de parler d'une chose en train de mourir. Et puis tout d'un coup, grâce à l'élection d'Emmanuel Macron, on va raconter l'histoire comme ça, il semblerait que l'Union européenne soit une valeur qui reparte à la hausse. Donc je suis désolé pour Michel et je suis très content pour Jacques, dont nous savons tous à quel point cette question les oppose et les divise. Et non, Macron. Et donc du coup, d'une certaine manière, ça tombe bien, puisque l'actualité, le sens de l'histoire sont à nouveau en train de légitimer tous ceux qui s'intéressent au territoire et à l'espace européen et considèrent que c'est quelque chose qui n'est pas en train de mourir. Donc il est encore plus urgent que ça ne l'était jusqu'à présent de caractériser la territorialité de l'Union européenne, puisque dès lors qu'on considère que cette entité territoriale et cet objet politique qui est une réalité qui nous concerne tous et qui a un impact sur nos vies a encore de l'avenir, il faudrait peut-être savoir finalement de quoi on parle. On se rappelle tous que un de nos très grands ancêtres, Emmanuel de Martonne, a joué un rôle très très important en 1919 dans le redécoupage de l'Europe. Eh ben, il serait temps que les lointains descendants de Martonne que nous sommes soient à nouveau convoqués, puisque, comme vous savez, Emmanuel Macron a dit lors d'un colloque célèbre auquel Michel d'ailleurs participait, dans cette institution qu'il adore, le Sénat, il a dit « La France est un pays de terroirs et de géographes », eh bien il serait temps que, enfin, les géographes soient à nouveau convoqués à Bruxelles, à l'Élysée, à la Chancellerie, un peu partout, pour dessiner l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Alors, très modestement, je vous propose, si nous en sommes tous d'accord, on peut même ensuite signer, envoyer ça sur Twitter en 140 caractères, de dire que la convocation des géographes dessinant l'Europe de demain commence ici, maintenant, dans ce colloque de Cerisy. Mais pour ce faire, et pour que il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que Macron dit la France est un pays de géographes, très bien, vous avez vu que pour notre grand malheur à tous, il fait une équivalence entre géographe et terroir, comme si nous étions tous des pochetrons. Ben non, hein. Bon. Alors, il faut déjà commencer par définir qu'est-ce qu'on appelle territoire, territorialité, et distinguer le territoire de l'Union européenne de l'espace européen. Voilà. Et même... Bon, alors, je vais peut-être vous donner le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes, surtout qu'il y a quand même dans cette assemblée un certain nombre d'entre vous qui ont planché, beaucoup réfléchi à cette question du territoire européen et de l'espace européen, en particulier Jacques Lévy, pour ne pas le citer, puisque son livre « L'Europe, une géographie » est quand même le livre de chevet. Oui, je n'hésite pas à le dire, de chevet. Je fais partie des gens qui ont des insomnies, et pour me rendormir la nuit, j'ouvre Europe, une géographie, et tout de suite ça va beaucoup mieux. Donc première édition 1997, deuxième édition 2011, alors que la Grèce était en train de plonger dans le marasme. Bon, d'ailleurs, au passage, il faut quand même le dire, il n'y a pas beaucoup de compassion dans les éditions de Jacques Lévy pour la situation de la Grèce. Hein, c'est là où on voit qu'il est macronien, alors que d'autres sont plutôt ammoniens, hein, voire tsipraciens. Bref, quelle différence on peut faire entre le territoire européen et l'espace européen? Bon, il faut quand même en parler, me semble-t-il, quelques minutes, ou beaucoup plus, si vous le souhaitez, pendant la discussion. Alors, l'espace européen, j'ai l'impression, évidemment, est un objet de débat très important, et heureusement d'ailleurs, parce que ça fait même partie des grands plaisirs qui peuvent exister au sein de la communauté des géographes et de tous ceux qui, dans le cadre du tournant spatial, font comme s'ils avaient toujours été géographes et s'intéressent à l'espace maintenant. Ça, c'est... Yann connaît ça mieux que personne. Mais l'espace européen, on peut se demander, ça commence quand? Historiquement, je veux dire, hein. Je ne sais pas où est Hélène, voilà, Hélène est là. Est-ce que ça commence au Moyen Âge, l'espace européen? Christian Grataloup a un jour décidé, a tranché. Il a dit on ne peut pas parler d'espace européen avant les Carolingiens. Bon, il y en a d'autres qui font remonter ça à l'Empire romain, d'autres à la Renaissance, d'autres au traité de Westphalie, bon, etc. Bon, peu importe. Et puis, bien entendu, l'espace européen, c'est un espace de civilisation ou social. Et donc là, on cherche les limites. La Russie fait-elle partie de l'Europe? Oui, non, etc., etc. Bien. Donc, même si personne n'est d'accord sur les limites spatio-temporelles de l'espace européen, en tous les cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un espace européen. Voilà. Bon. On va dire il y a au moins une notion et un cadre commun de réflexion sur le sujet. Par contre, territoire européen, ben finalement, il n'y a pas grand monde qui s'y colle. C'est vrai. Hein. Alors, du coup, il faut bien que je vous propose, à mes risques et périls, une définition de la notion de territoire. Alors là, à mes risques et périls, surtout qu'il est quand même très tôt, qu'on est fin juillet, que je suis en vacances, que Yann m'a emmené me promener ce matin, etc. Donc du coup, je vais tout de suite sortir le parapluie et je vais me référer au dictionnaire dirigé par Michel Lussault et Jacques Lévy, la définition territoire, où il y a, vous vous en souvenez tous, 8 sens donnés au mot territoire, qui est quand même notre patrimoine commun à tous, le mot territoire, et il y a le sens numéro 6, qui est présenté comme un sens un peu classique, mais néanmoins bien balisé, à savoir que on va entendre par territoire, c'est du moins ce que moi je vais vous proposer ici, mais encore une fois, c'est l'une des 8 acceptions, même si c'est pas la plus originale, on va entendre par territoire ici l'espace en tant qu'il est politique, en tant qu'il est produit par le politique, qu'il est produit par les politiques publiques, et donc bien entendu, dans cette acception-là, le terme de territoire est le plus souvent, on va dire, synonyme, pour aller vite, hein, ou en tout cas très très fortement à Paris, on dit pas à Paris monté, à Paris, je sais pas comment on dit, enfin connecté à la notion d'entité territoriale. Et quand on dit entité territoriale, la plupart du temps, on pense à un État, parce que comme on est comme on est au début du XXIe siècle, qui suit elle-même la deuxième moitié du XXe siècle, évidemment, quand on pense entité territoriale, spontanément et sans se poser de questions, on se dit, bah oui, après tout, dans ce monde, dans cet espace mondial, il n'y a que des États, et puis même en général, on ajoute même inconsciemment, ça vient tout seul, des États-nations. Bon, alors, on va voir ça, mais en tous les cas, moi je vous propose donc tout simplement de considérer la notion de territoire européen au sens où la géographie, de manière comme ça un peu indifférenciée, un peu générale, parle du territoire d'un pays, du territoire d'un État. On peut prendre le mot pays, comme ça on met pas le mot État, c'est un peu plus flou, mais ça peut nous aider, voire même du territoire d'une région instituée. Hein. Et là aussi, je me réfère à une notion qui, en tous les cas, en langue française, est très très peu employée. Elle est plus courante dans la géographie anglo-saxonne, mais on la trouve employée et définie, là encore une fois, dans le dictionnaire de géographie de l'espace et des sociétés de Michel, enfin, dirigé par Michel et Jacques, la notion d'État local. Voilà. Bon, alors on peut avoir le territoire d'un pays, le territoire d'un État, le territoire d'un État local, et puis évidemment, si on veut bien être dans une perspective un tout petit peu géohistorique, il y a aussi d'autres types d'entités territoriales qui n'existent pas aujourd'hui, en tous les cas, en tant que telle, elle n'existe pas à l'ONU, par exemple, ni même dans le répertoire, on va dire, géopolitique, comme les régions, les länders, etc. Mais il fut un temps où il y a eu des empires. Alors aujourd'hui encore, il y a des empires, mais il n'y a pas d'empire à part le Japon. Hein. Bon. Mais le Japon, c'est un faux empire, c'est un État-nation avec un empereur. Bon, voilà. Je dis ça aussi parce que il me semble que dans le cas d'un pays, les choses sont assez simples. Le territoire, la notion de territoire et la notion d'espace se recouvrent. On va prendre la France puisqu'on est à Cerisy, dans un vrai coin de France, assez proustien, etc. Finalement, quand on étudie l'espace français, ça paraît assez logique d'étudier le territoire français. Non pas parce qu'il se superpose, mais parce que pour penser l'espace français ou le caractériser, à un moment donné, l'historien, le géographe ou le politiste tombe forcément sur la question du territoire français et va se demander dans quelle mesure la construction du territoire français participe de la construction de l'identité française et de son espace. Et puis réciproquement, ça marche aussi. Si on étudie le territoire français, à un moment donné, on va dire « Ah ben tiens, il y a aussi un espace français, et d'ailleurs l'espace français n'a-t-il pas précédé le territoire français, etc. etc. » Dans le cadre de l'Union européenne, il n'y a pas ça, sachant que ça, entre guillemets, on peut le faire au moins par convention, parce qu'en réalité ça marche pas vraiment partout, mais peu importe, conventionnellement, on peut le faire pour n'importe quel État ou n'importe quel pays. Dire, ben voilà, l'espace chinois, bien entendu, est-il plus large que le territoire chinois, mais d'ailleurs, bien entendu, l'espace chinois est à l'origine du territoire chinois, mais non, c'est l'inverse, parce qu'il y a d'abord une construction politique, etc., etc. Donc, à l'Union européenne, on est face à quelque chose qui est évidemment tout à fait embarrassant, parce que, bien entendu, on n'a pas ça pour une raison toute bête, hein, excusez-moi, là, encore une fois, de dénoncer des choses très, très, comment dire, élémentaires. Il n'y a pas de pays, Union européenne. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de pays Europe. Hein, voilà. On l'a vu, enfin, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Il y a éventuellement une civilisation européenne, en tous les cas, une société européenne, avec des sociétés européennes, un espace européen, mais il n'y a pas de pays Europe. Bon. Donc, du coup, se poser la question de caractériser au XXIe siècle le territoire d'une entité territoriale qui ne correspond pas à un pays, et puis si on était dans le passé, qui ne correspond pas à un empire, bah finalement, est-ce que c'est pas une aporie? Voilà. Et c'est probablement, je ne sais pas, hein, vous avez peut-être des idées là-dessus qui vont nous éclairer, mais c'est probablement une des raisons pour lesquelles le territoire de l'Union européenne est finalement assez peu étudié en tant que tel, est assez peu un objet d'étude. Hein. Bon. Me semble-t-il. Ou alors il l'est. Mais on n'est pas toujours très très à l'aise pour le faire. Alors évidemment, on pourrait regarder du côté de la géographie dite macro-régionale, des macro-régions. Bon, après tout, on a, nous en avons d'ailleurs quelques dignes représentants ici, on a l'Amérique du Sud, ou voire l'Amérique latine, ou l'Asie du Sud-Est, ou l'espace indien, l'espace chinois, etc., etc. Mais s'agissant des macro-régions, on a des constructions qui peuvent avoir l'air, vues de loin, équivalentes, ou en tout cas qui sont en écho à l'Union européenne. N'y a-t-il pas un territoire sud-est asiatique, puisqu'il y a l'ASEAN? N'y a-t-il pas un territoire du cône sud-américain, puisqu'il y a le Mercosur? Bon. Alors, il ne faut pas que je passe trop de temps là-dessus, à caractériser ou à proposer des éléments de caractérisation du territoire de l'Union européenne par rapport aux autres, parce que là, évidemment, du coup, on rentre dans la comparaison, on peut y passer des heures. Hein, c'est d'ailleurs une, me semble-t-il, c'est une des grandes caractéristiques des études sur le territoire de l'Union européenne, c'est, pour le caractériser, quand on essaye de le faire, c'est de dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un État-nation, ce n'est pas un État fédéral, même si un État fédéral, c'est pas tout à fait le même registre que l'État-nation, Et en fait, est-ce que c'est vraiment une macro-région? Bon, alors là aussi, pour dire les choses beaucoup trop rapidement, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, là, je serai un peu affirmatif, et puis bien entendu, si c'est ce point qui vous intéresse dans la discussion, on discutera. Mais de mon point de vue, il y a vraiment clairement, enfin de mon point de vue, du point de vue de tous les gens qui se sont un jour un peu penchés sur les phénomènes de régionalisation, il y a clairement une différence, non pas de degré, mais de nature, hein, entre l'entité territoriale de l'Union européenne et les autres que j'ai cités très rapidement, l'ASEAN, le Mercosur, je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre, l'ALENA, à d'autres époques, l'Union du Maghreb uni, enfin bon, bref, toutes celles qui disent, alors là, évidemment, j'ai conscience, il faut quand même que je le dise un peu, on est à Cerisy-la-Salle, Roland Barthes nous a précédé, les structuralistes aussi. De quel lieu parlez-vous? Ben, moi, je parle clairement du lieu des militants pro-européens. Voilà, enfin, au cas où ça vous aurait échappé. Voilà. Je considère que ça ne nuit pas au regard scientifique et qu'on peut tout à fait avoir une démarche scientifique, rigoureuse et méthodologique, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet, je suis pro-européen, j'adore l'Union européenne depuis que je suis tout petit. Voilà. Et pendant que j'enfonçais des clous dans le cercueil, je me disais, par devers moi, je m'en fous, je continue à faire du prosélytisme, je convaincrai tous mes étudiants, de Sciences Po en l'occurrence, et à chaque fois que je le pouvais, de faire quand je faisais une émission de radio sur l'Europe, que l'Union européenne, c'est notre avenir. Et pas seulement le nôtre à nous, les Européens, ici présents aujourd'hui, mais c'est l'avenir de l'humanité, hein, que les choses soient claires. Hein. Voilà. Je referme la parenthèse. Voilà, vous savez d'où je parle. Bien. Donc, vous pouvez y aller franco pendant la discussion. Hein, si vous voulez m'allumer au motif que « n'es-tu pas en train de dire ce que tu dis parce que tu crois et que tu défends une cause ?» Ben, si, mais vous pouvez le dire explicitement. Hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Bref. Donc, il y a une différence, non pas de degré, mais de nature entre l'entité territoriale UE et toutes les autres. Alors, c'est peut-être là-dessus que vous aurez envie qu'on parle, mais en un mot, cette différence de nature et non pas de degré, c'est que, premièrement, l'Union européenne, qui avant s'appelait la CE, comme vous le savez, puis la CE, est la seule de toutes ces entités territoriales, et c'est la seule dans le monde, à part l'OMC, qui est un autre truc un peu hybride et spécial, à être, du point de vue de l'organisation politique, supranationale. Voilà. Ça, et ça, vraiment, alors là, s'il y en a qui veulent croiser le fer, je suis prêt à croiser le fer. Il n'y en a pas deux. À part, encore une fois, l'OMC, c'est d'ailleurs assez intéressant, et la Cour pénale internationale. Mais bon, vous voyez, l'OMC, c'est vraiment un truc. C'est une politique publique en particulier, la Cour pénale internationale aussi, puis la Cour pénale internationale, ça marche moins bien parce que les États-Unis ne sont pas dedans. Bien, ça c'est la première chose. Et donc, à partir de là, évidemment, la deuxième grande caractéristique, c'est qu'en fait, il se trouve, me semble-t-il, qu'on peut dire que la construction européenne, à la différence des autres, est véritablement, et peut-être même, est vraiment la seule à être une construction ou un objet totalement géographique. D'accord ? Parce que finalement, là aussi, pour aller un peu vite, et je m'en excuse, qu'est-ce que c'est que le territoire, je sais pas s'il faut dire en première ou en dernière instance, qu'est-ce que c'est que le territoire de l'Union européenne ? C'est finalement une espèce de mutualisation des mobilités. Alors, je sais bien que Jean Monnet l'a jamais raconté comme ça, et qu'aucun chef d'État et de gouvernement ne la raconte comme ça, et que nos collègues qui sont à l'Institut universitaire européen de Florence ne le racontent pas comme ça, puisqu'ils vous expliquent que c'est le marché, la régulation, etc. Oui, d'accord. Mais si vous prenez les choses, il me semble, de manière finalement assez, j'ai presque envie de dire, le bon sens près de chez vous, eh bien, avec le traité de Rome, on a tout simplement décidé de dire ces frontières-là nous cassent les pieds, on va dire. Il s'agit de faire en sorte que, mettons que je suis un Français, que pour organiser mon territoire, je vous rappelle la définition que j'ai donnée du mot territoire, et encore une fois, on peut tout à fait en discuter et la rendre beaucoup plus intéressante et intelligente, que pour organiser mon territoire, eh bien, je le fais en discutant avec mes voisins. Voilà. Ça veut dire que dans un certain nombre de domaines, alors, en 1957, il y avait très peu de domaines, mais c'était que des domaines liés à la mobilité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire la circulation des biens, la circulation des salariés, c'est-à-dire des personnes actives, les salariés, les artisans, etc. La circulation des flux dématérialisés financiers, d'accord. Tout ça est l'objet depuis, j'ai presque envie de dire, la nuit des temps. Je fais ça exprès parce qu'Hélène est là. Hein. Depuis la nuit des temps, fait l'objet de régulation organisé par le politique, d'accord, donc ce qu'on appelle les politiques publiques, avec l'État ou les États locaux qui prennent du pouvoir, donc qui créent du territoire en créant, enfin en produisant de la régulation, d'accord, à telle enseigne qu'un jour on se dit, bah finalement c'est même le territoire qui crée le politique, puisqu'il y a une espèce d'identification très forte entre un territoire donné, enfermé dans des frontières, et l'espace des régulations des politiques publiques. Et puis là, tout d'un coup, un beau jour, en 1950 avec la CECA, en 1957 avec la CE, donc c'est vraiment hier, c'est très très récent, à l'échelle des machins qui vont nous emmener au Moyen-Âge. Je sais pas si tu vas parler du haut ou du bas Moyen-Âge. Du haut, en plus, vous vous rendez compte. Là, on va remonter au 6e siècle. Hein, alors nous, on est en 1957, c'est vraiment l'épaisseur du trait sur la frise du temps. Eh bien, un jour, on ne sait vraiment pas pourquoi, après la guerre et toutes ces horreurs, les Français ont été voir les Allemands et leur ont dit « Eh ben tiens, tu voudrais pas, s'il te plaît, venir t'asseoir au restaurant avec moi, manger de la tête de veau et décider avec moi des politiques publiques qui créent mon territoire ?» Alors ça, on en reparlera si vous voulez. La question du choix, moi je considère qu'en politique, on a toujours le choix. Faire de la politique et donc produire du territoire, c'est toujours un choix. Alors dire on n'a pas le choix, c'est faire comme ça n'est pas. Oui, on pourrait dire, c'est quand même marrant, Hitler qui a envahi toute l'Europe. Ben, il avait le choix, parce que tout le monde, c'est une vraie connerie. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il a tout perdu. C'est-à-dire, s'il avait, comme on dit, pas eu le choix, il aurait fait autre chose. Ben, pourtant, il l'a fait. Voilà. Donc, on a toujours le choix. Donc, moi, je suis un peu, excuse-moi, Arthur, je suis un peu énervé contre tout le monde qui dit, ah ben, on fait l'Europe, on n'a pas le choix. Si, on a le choix. On a le choix de faire péter l'Europe, de retourner à des vieilles, à une vision nationaliste des choses, etc., et à se planter, se faire la guerre, retuer plein de gens. Non, c'est un choix qu'on a fait et on ferait mieux de l'assumer. Mais en termes de territoire, ça veut dire que donc, encore une fois, on fait le choix. On fait le choix. Alors après, on peut chercher à expliquer pourquoi on fait ce choix. Mais on fait le choix de dire, pour définir ou pour produire du territoire chez moi, j'invite les autres à le faire avec moi. Et donc, du coup, réciproquement, je suis invité par les autres à définir et produire leur territoire. Voilà. C'est ça, hein. Et vous le voyez bien. Aujourd'hui, on en est à ça, mais poussé à un degré bien plus poussé, excusez-moi, qu'en 1950 et 1957, puisqu'aujourd'hui, on le fait carrément avec les frontières. Hein. Or, les frontières, c'est dans la mythologie territoriale, dans la mythologie qui est devenue stato-nationale, puisque c'est l'imaginaire mondial courant, mutualiser les frontières, puisque c'est bien de ça, il s'agit de mutualisation territoriale, mutualiser les frontières, mutualiser la production de frontières. Je crois que c'est Olivier qui évoquait, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier soir, qui évoquait les travaux de Jean-Baptiste Frétigny nous expliquant comment la frontière était, dans sa matérialité, était complètement redessinée, parce que la frontière Schengen passe maintenant dans des points qui sont des aéroports sur les territoires nationaux. Ça veut dire que il faut bien voir, hein, quand on regarde les cartes de Jean-Baptiste ou qu'on regarde les cartes du réseau Migre Europe, qui vous fait soit les centres de rétention, soit les micro-espaces Schengen à l'arrière des aéroports. Hein, pour compléter ce que disait Olivier, quand Jean-Baptiste dit ça, vous voyez bien comment ça marche. Ça veut dire que vous descendez de l'avion, vous avez tous fait cette expérience, vous descendez de l'avion. Alors voilà, vous êtes à Orly ou à Roissy dans un joli, c'est pas un escalator londonien, hein, c'est un espèce de, je sais même pas comment ça s'appelle, là, les espèces de couloirs, enfin, je crois, à la fête foraine, les machins qui montent et qui descendent, un espèce de grand aspirateur, etc. Alors vous êtes tout content avec votre petite valise à roulettes, vous arrivez, puis tout d'un coup, crac, il y a des portes, et tant que vous n'avez pas franchi ces portes, battantes qui ne s'ouvrent que dans un sens, vous n'êtes pas rentré sur le territoire français, allemand, espagnol ou ce que vous voulez. Donc, entre le moment où vous descendez de l'avion et le moment où vous allez atteindre ces portes, vous pouvez vous faire embarquer gentiment par un CRS bien gaulé, par exemple. Vous n'êtes toujours pas rentré en territoire français. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes dans le territoire Schengen. Vous êtes dans une espèce d'entre-deux, dans un interstice, où vous n'êtes toujours pas dans le territoire national. Et pourtant, vous êtes à Roissy-Charles de Gaulle. Enfin, je veux dire, on peut pas faire plus au cœur de l'Île-de-France, au cœur de la France. Et ça vaut bien sûr pour Berlin, pour Madrid, etc., etc. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a ensemble, les Européens, créé une espèce de frontière européenne. Alors, on pense tous aux espèces de passoires qui passent par la Grèce ou par Ceuta et Melilla, qui sont de moins en moins des passoires, d'ailleurs. Mais en vérité, la vraie frontière européenne, elle est là, au cœur des territoires nationaux. Et même s'il y a des CRS français, en vérité, on pourrait très bien y mettre des CRS allemands, quelle horreur, ou des CRS grecs, etc., etc. Hein, voilà. Donc, on en est à un point aujourd'hui où la mutualisation du territoire, c'est pas seulement, si vous voulez, comment je pourrais dire ça, un mot de militant pro-européen allumé et habité. Hein, non. Alors là, on est vraiment, me semble-t-il, sur un élément qui nous oblige à nous demander si le territoire de l'UE n'est pas un territoire singulier. Parce que où est-ce que ça existe d'autre ? Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas dans l'ASEAN, ça n'existe pas dans l'ALENA, ça n'existe pas dans le Mercosur, pour une raison très simple, c'est que politiquement, les différents pays dont nous parlons, et donc les sociétés qui animent ou qui s'animent entre elles et qui s'organisent politiquement, considèrent que la souveraineté nationale est toujours l'alpha et l'oméga de l'organisation politique de leur société. Donc, nous, en fait, en Europe, dans l'Union européenne, attention, mais évidemment, l'Union européenne, si vous voulez, diffuse, parce que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est dans Schengen, donc ils sont déjà un peu dans tout ce bazar. Hein. Mais nous, en Europe, nous avons tout simplement décidé, sans jamais vraiment le dire, de mutualiser du territoire, donc de mutualiser de la souveraineté. Et quand on dit qu'on a mutualisé les frontières, c'est pour ça que moi j'aime bien le mot mutualiser. Hein. La première fois que j'ai utilisé le mot mutualiser, c'était il y a 10 ans. On n'était pas très nombreux à ce moment-là. Bon, depuis, le mot, non pas parce que je l'ai utilisé moi, mais il se trouve qu'il y a plusieurs... Voilà, finalement, d'autres ont eu cette même idée, en particulier dans les milieux politiques. Et maintenant, le terme de mutualisation est un terme qui est beaucoup plus répandu, y compris chez les politiques quand ils parlent de l'Europe. Mais on mutualise du territoire. Et ça n'existe, me semble-t-il, nulle part ailleurs. Donc, voilà comment on peut essayer, me semble-t-il, de commencer à caractériser ce que c'est que le territoire de l'UE et sa territorialité. Et encore une fois, la singularité, de toute façon, réside au minimum ou de façon élémentaire dans le simple fait que c'est une entité territoriale supranationale. Et que donc, s'agissant de la production du territoire et de la manière dont on fait avec, ça change tout. Voilà. Alors, je sais bien que... évidemment, le terme supranational est devenu un terme un peu repoussoir parce que les anti-européens et les souverainistes s'en sont emparés d'une manière telle que du coup, même Macron n'ose pas le revendiquer. Hein, voilà. Alors, ce faisant, alors évidemment, pour que il faut quand même que je prépare un tout petit peu mes arrières. Alors, ce faisant. Évidemment, pour m'autoriser à vous faire cette proposition, enfin qui va peut-être vous paraître banale, j'en sais rien, peu importe. Hein. Si elle vous paraît banale, je serais très intéressé, bien sûr, de savoir pourquoi et comment aller plus loin. Moi, il y a évidemment un article qui a joué un rôle très important, un article qui, pour moi, est fondamental, mais qui est fondamental pour beaucoup dans la géographie politique. C'est l'article de John Agnew sur le piège territorial, hein, de Territorial Trap, un article qu'il a publié en 1994. Donc, The Territorial Trap, The Geographical, excusez mon accent, Assumptions of International Relations Theory, hein, donc dans lequel il disait... Le problème du territoire, c'est qu'il a été un peu capté, hein, comme il y a une espèce de capture par les relations internationales de la notion de territoire, et que du coup, dans les relations internationales, il y a eu cette espèce d'assignation, si vous voulez, d'assignation du territoire à l'État-nation. Bon, voilà. Et Agnew, donc, va assez loin en 1994 en disant il faut démystifier tout ça. De toute façon, la souveraineté territoriale, au sens où les relations internationales nous cassent les pieds depuis le début du XXe siècle, j'ai oublié le nom de leur grand auteur, je crois que c'est Rosneau. Voilà, bon, en fait, un jour, les types en relations internationales ont découvert qu'il y avait un objet géographique super intéressant auquel ils ne comprenaient pas grand-chose, qui s'appelle le territoire. Ils ont décidé de faire une petite capture ou un petit rapt et de faire leur beurre avec. Puis ça a assez bien marché, voilà, bon. Okay. Et donc ils ont dit le territoire c'est l'État c'est le territoire, l'État-nation c'est le territoire, etc. Bon, donc un jour Jacques a décidé que tout ça s'appelait géopolitique et qu'on allait appeler ça l'État géopolitique, et donc il a descendu ça au Karcher. Pauvre Lacoste qui s'en est pris plein la figure. Bon, alors que la géopolitique interne, il faut quand même que je défende un peu Lacoste et Gibelin. Bon, ils ont quand même expliqué que la géopolitique, c'est des relations de pouvoir sur un territoire. C'est pas que l'État territorial. Tu le sais bien. Bon, mais voilà. Petite parenthèse. Mais en tout cas, Agnew a dit le piège territorial, c'est d'assigner le territoire à l'État. Et donc, dans notre imaginaire collectif mondial, pour aller très vite, et même postcolonial, hein, parce qu'aujourd'hui, même, alors, même que, grâce à la fin de la colonisation, on aurait pu dire super, on va foutre en l'air l'État-nation, mais non, pas du tout, hein. La première chose que tous les États devenus indépendants, que toutes les sociétés devenues indépendantes se sont précipitées de faire, c'est de créer leur État-nation. Bon, d'accord. Alors, après, on a des débats infinis pour savoir si c'est un État importé, si c'est encore du colonialisme, etc. Enfin, bref, le fait est que maintenant, il y a des États-nations partout. C'est pour ça que moi, excusez cette digression, j'adore le Somaliland. Je sais pas, et puis y aller encore parce que c'est dangereux et que le ministère des Affaires étrangères nous dit surtout n'y allez pas, vous allez vous faire enlever, ça va coûter très cher, on va devoir payer une rançon. Mais en fait, le Somaliland, c'est vachement sympa parce que c'est un État qui n'est pas sur la carte, qui n'est reconnu par personne et qui marche super bien. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas la guerre. Grosso modo, les gars, je me trompe ou pas? Non, hein, c'est ça. Je voyais Arthur faire comme ça, donc je savais pas s'il disait je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Ou s'ils disaient, non, tu dis une grosse bêtise. Voilà. Donc, le Somaliland, c'est vachement sympa. Les gars, ils ont créé leur État dans leur coin. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils sont en paix. Voilà. Mais c'est un État qui n'est pas sur la carte, que personne ne reconnaît. On ne sait pas trop pourquoi. C'est un territoire qui marche. Pour autant que, enfin, je ne suis pas du tout spécialiste du Somaliland, ni de l'Éthiopie, ni de la Somalie. Alors que, regardez le Darfour du Sud. Ça s'appelle comme ça, le Sud Darfour, le Soudan du Sud. Vous avez vu la catastrophe? Enfin, c'est genre, les gars, ils créent leur État en 2011, et depuis, c'est encore pire. Bon, hein, voilà. Alors donc, l'État, alors, et John Agnew, donc, explique, bon, voilà, l'État territorial, faut faire attention, et lui, il va même très très loin, puisque dans son article séminal, il va même jusqu'à dire, puis il l'a dit après dans un autre bouquin qu'il a sorti en 2000 qui s'appelle Sovereignty, State and Territoriality, il écrit que en fait la souveraineté territoriale est un mythe. Avouez que c'est quand même assez sympa comme on est d'accord, ça fait quand même rentrer de l'air quoi. La souveraineté territoriale est un mythe, imaginez la tête des gars à l'ONU quoi. Le jour où Agnew a écrit ça, il a dit « elle a jamais existé ». Voilà, elle a jamais existé telle qu'on nous fait croire qu'elle a existé. Évidemment, il y a de la souveraineté, hein, bien sûr, et il y a du territoire, c'est vachement intéressant. Mais voilà. Alors du coup, je trouve que c'est assez sympa parce que l'Union européenne est une entité territoriale complètement... Alors, est-ce qu'elle est hybride ou est-ce qu'elle est atypique, hein? Alors, en général, on vous dit le territoire européen, vous voyez, c'est une imperfection, c'est une malfaçon, ça ressemble à rien. Vous avez des gars qui ont rempli 4000 pages, je sais pas, je pense à Olivier Beau, Thierry Chopin, pour savoir si l'Union européenne était une fédération, par exemple, un État fédéral. Alors, oui, non, oui, pour... Bon, bref. Donc en fait, alors moi, je pense au contraire, et je suis pas du tout le seul à le penser, bien sûr, mais qu'on peut renverser le truc et de dire, regardez le territoire européen. Le territoire européen, justement, est une énigme singulière, est un territoire singulier. Ce qu'on prend pour une imperfection, c'est pas tant que c'est une perfection, mais c'est juste que si on avait d'autres lunettes, on dirait pas c'est une imperfection, on dirait c'est singulier, peut-être même c'est unique. Il me semble que la différence entre le singulier et le particulier, c'est que le singulier, s'agissant d'un territoire notamment, est un territoire, on va dire, qu'on peut vraiment étudier pour lui-même, mais dont les caractéristiques peuvent, à un moment donné, nous permettre de monter en généralité et d'étudier non seulement le général, mais voire l'universel. Bon, alors là, vous me voyez venir avec mes gros sabots de militant pro-européen, parce que, évidemment, si je disais... Le territoire de l'Union européenne est un territoire particulier. Je dirais, donc, on peut rien en apprendre. Ça veut dire, c'est totalement relatif. Ça n'existe que là. Ça peut pas exister ailleurs. Ou, plus exactement, ou plus précisément, ça ne peut inspirer personne d'autre ailleurs. Alors que dire que c'est un territoire singulier, ou en tout cas en faire l'hypothèse, c'est dire peut-être que dans ce cas très particulier, on peut s'interroger évidemment sur pourquoi et comment un jour les Européens qui n'avaient jamais imaginé faire un truc pareil en sont arrivés à faire ça. Il y a peut-être à l'œuvre des éléments, donc dans ces éléments de singularité, il y a peut-être des éléments qui peuvent intéresser l'humanité tout entière. Voilà. Alors je sais que quand je dis ça, évidemment je prends le risque d'un espèce de retour du néocolonialisme par la fenêtre après l'avoir sorti par la porte. et que vous voyez, encore un qui ne peut pas s'empêcher de dire que l'Europe a inventé un truc et qui est à l'avant-garde. Oui, peut-être, j'assumerai. Hein, voilà. La singularité, en effet, plutôt que de dire c'est un truc qui ne marche pas bien, qui est un peu hybride, qui est un peu bâtard, etc., moi je suis plutôt pour dire c'est pas un inachèvement, hein, l'Europe. C'est une dynamique. Et là, évidemment, on a des collègues qui ont expliqué ça très très bien. Hein. Si on prend simplement la notion de frontière, puisqu'elle est tellement, pour nous, les géographes, et pour la manière dont le monde académique et universitaire et le monde tout court voit la géographie et les géographes, la frontière, évidemment, c'est vraiment un espèce d'étendard ou même une espèce de lampe avec laquelle on peut les aveugler comme avec nos phares en voiture dans la campagne de Cerisy la nuit, on aveugle les lapins. Hein. Donc, alors, rien qu'avec la frontière, ça marche très très bien, cette espèce de singularité, puisque je sais pas, moi, par exemple, Michel Fouché a parlé de métafrontières. Hein. Il dit, les frontières de l'Union Européenne, c'est des métafrontières, puisque ce sont des frontières qui sont comme une enveloppe qui viennent qui viennent incorporer des frontières traditionnelles nationales et qui les transforment pour en faire. Alors il appelle ça une métafrontière. Yann Richard propose de parler. Il reprend à son compte le concept de fuzzy border, hein, les frontières floues, pour dire. Alors il dit les frontières de l'Union européenne. En fait, on croit qu'on peut les dessiner, mais en fait non, on peut pas les dessiner puisque selon le registre de politique publique dont on parle, on a un territoire à géométrie variable, et puis même quand les politiques publiques est assez light, on voit bien que, pour reprendre l'exemple de Micro-Europe ou des aéroports, on voit bien que si on prend les centres de rétention, là, Macron vient de le dire, je vais essayer de rester poli parce qu'on est à Cerisy, mais cette espèce d'ectoplasme, après nous avoir joué du pipeau en disant « je vais résoudre le conflit libyen », maintenant on sait pourquoi il l'a reçu, l'un des deux premiers ministres libyens, uniquement pour lui vendre, c'est-à-dire lui acheter des centres de rétention dans lesquels, alors on n'appelle pas ça centre de rétention, on appelle ça hotspot. Ok? Faut essayer de le faire avec l'accent luxembourgeois de Jean-Claude Juncker. Des hotspots, d'accord? Qu'on installe en territoire libyen, c'est l'horreur, la Libye. La condition qui est faite aux migrants qui traversent le Sahara, qui arrivent en Libye, c'était déjà le cas sous Kadhafi, ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein. Enfin, sauf erreur de ma part. C'est pire, dit Jamila. Donc, vous avez entendu, c'est sorti hier. On va donner, alors on ne sait pas si c'est que la France ou l'Union européenne, on va donner un paquet de pognon à l'actuel chef de gouvernement libyen pour que non seulement ils retiennent les migrants qui ont réussi à traverser le Sahara sans mourir, comme dans « Trois femmes puissantes » de Marie Ndiaye, mais en plus, pour que ce soit eux qui délivrent les visas. Alors, il y aura des agents consulaires européens. Mais vous imaginez le BINS, ça existe déjà un peu. Hein, voilà. Donc, là, ça veut dire que, très concrètement, la frontière du territoire européen passe par la Libye. Quand je dis « passe par la Libye », c'est si on devait la cartographier, il faudrait prendre, alors je ne sais pas ce qu'il faudrait prendre, faire un trait ou faire un gros point, en Libye. Mais c'est déjà le cas en Ukraine. Il y a déjà des centres de rétention et des hotspots en Ukraine. Il y en a déjà à Ceuta, etc., etc. Il y en a à Lampedusa. Vous allez me dire, Lampedusa, c'est en Italie, donc c'est dans l'UE, etc., etc. Voilà. Bon. Jacques, ici présent, évidemment, dit que pour comprendre les frontières de l'UE, on ne peut que recourir à la notion d'horizonte. Enfin, excusez-moi, j'ai pas dit avec le bon accent. Horizonte. Merci. Voilà. Hein, donc, quelque chose de dynamique. Donc, non pas flou, mais en mouvement. Hein, voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est content, mais on n'a pas beaucoup avancé. Il me semble juste que là, j'ai essayé de répondre à la... Enfin, de justifier l'invitation qui m'a été faite, c'est-à-dire que le territoire de l'UE est un territoire singulier. Bon. Voilà. Bon. Alors, maintenant... comment peut-on caractériser cette singularité en 5 minutes ? Oui, c'est ça.
Il me reste 5 minutes ? Oui, oui.
OK. Bon, du coup, on va faire des bullet points. Hein. Comment peut-on caractériser cette singularité en 5 minutes ? Alors, d'abord, moi, il me semble que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est passé par une démystification du territoire stato-national européen. Hein, vous connaissez tous l'histoire. On sort les violons. On était hier dans, quand même ce qui a été au XIXe siècle le cœur, je ne sais pas si le mot cœur est le bon, mais disons dans ce que la civilisation européenne avait de plus délicieux, hein, grâce à Olivier, c'est-à-dire en Autriche-Hongrie. L'Empire d'Autriche-Hongrie a disparu avec tout ce qui allait avec. Ne croyez pas que je sois un nostalgique de l'Autriche-Hongrie. Hein. Je ne pleure pas tous les soirs en me couchant en lisant Zweig. Hein, rassurez-vous. Mais quand même, l'Autriche-Hongrie, si vous voulez, en un mot, je fais une deuxième toute petite digression, il faut arrêter, hein, surtout en France. En France, on nous a quand même lobotomisé sur l'idée que l'Autriche-Hongrie, l'Empire allemand, le méchant, l'Empire ottoman, tout ça, était destiné, dans une vision téléologique des choses, heureusement qu'on va parler du VIe siècle, destiné à disparaître. Non ! C'est-à-dire, tous les historiens, ou les politistes, ou les géographes, un tout petit peu honnêtes, c'est même pas sérieux, c'est honnête, j'ai toutes les références, si ça vous intéresse, écrivent, alors évidemment, ils le disent pas trop, parce qu'ils savent que c'est pas très... cachère, comme disait Michel hier, surtout s'agissant de l'Empire austro-hongrois, ils savent que s'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale, hein, comment on appelle ça déjà, l'histoire contrefactuelle, il faut faire rire. Donc s'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale, d'accord, il y aurait, enfin, probablement, en tout cas, l'Empire d'Autriche-Hongrie ne serait pas mort en 1919. Il serait peut-être mort pour d'autres raisons. D'accord? Non, mais il faut bien, je veux dire, on peut le dire maintenant. Alors, moi, évidemment, j'ai intérêt à le dire, puisque je suis un militant de la cause européenne. Non pas pour dire que l'Union européenne est une ressucée de l'Empire d'Autriche-Hongrie, hein, mais bon, pour dire que, oui, il existe d'autres cultures territoriales en Europe que la culture stato-nationale. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps. Hein. Et après, on peut même s'amuser à démontrer... C'est plus compliqué, ou en tout cas c'est plus sujet à discussion, mais on peut même s'amuser à démontrer que le fameux empire allemand n'est pas un empire, ou n'est pas d'abord un empire au sens où nous les Français, enfin je dis nous, vous voyez ce que je veux dire, disons nous héritiers de la culture scolaire française, on l'entend, c'est-à-dire un empire avec un casque à pointe, impérialiste, etc. Mais les gars, en 1870, ils ont appelé ça le Reich, mais pas dans le sens où la France avait un empire colonial, dans le sens où, justement, dans le sens du Saint-Empire romain germanique, sans romain. Et comme vous le savez, en français, on a traduit, je ne saurais plus vous dire en allemand comment on dit Saint-Empire romain germanique, en français, on a traduit par Saint-Empire romain germanique, mais si on prend, enfin, mais littéralement, hein, parce que en fait, c'est dérivé du latin, mais littéralement, et d'ailleurs, c'est ce que les Britanniques ont fait, on aurait dû traduire ça par Saint-Empire romain de nation allemande. D'accord ? La traduction littérale du mot Saint-Empire romain germanique en allemand ou en latin, c'est Saint-Empire romain de nation allemande. D'accord ? Donc, en fait, il y a toute une tradition impériale dans la culture allemande, dans la culture politique allemande qui remonte, pour le coup, au bas Moyen-Âge, enfin, peut-être qu'on peut le faire remonter au partage de Verdun, bon, peu importe, d'accord, où la notion d'empire n'est pas l'empire au sens où nous, dans la culture française, on l'entend, c'est-à-dire l'empire romain, armé, faites la tortue, mettez les casques sur votre tête, attention, on est dans le village de fous, vite, faites un détour, ou dans l'empire colonial à la Jules Ferry. Hein. Le mot empire... Alors, c'est pour ça que, bon, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais moi, il me semble que, du coup, si on voulait caractériser le territoire de l'Union européenne, qui n'est évidemment pas un État-nation, serait, finalement, peut-être de dire, en tout cas, c'est mon hypothèse, je vous la livre comme ça, au moins pour la discussion, si on ne peut pas caractériser le territoire de l'Union européenne d'empire, alors évidemment, pas l'empire au sens impérialiste, hein, mais... Bref, je pourrais revenir dessus pendant la discussion. Alors du coup, il faut qualifier l'Empire donc d'Empire consociatif, post-nationaliste, pas post-national, mais post-nationaliste, et enfin, kantien. Bon, alors là, je fais un peu une manipulation de type réunion de section locale de La République En Marche, c'est-à-dire j'assène, au lieu de... J'aurais dû prendre une demi-heure pour développer chacun des quatre mots, et puis je le dis à la fin en disant, bah, comme vous m'avez donné que trois quarts d'heure, il faut que je m'arrête. Voilà.
Oui, merci Sylvain.
De rien.